Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, nouvelle édition des Échos de ma commune et de mon canton. On est en période électorale, alors on va rester en dehors. On reçoit pas de politique aujourd'hui, mais on reçoit quelqu'un de très très occupé, bien plus occupé encore que les candidats à l'élection régionale. C'est Yvan Kuntz, qui est président, nouveau président de l'UDAF 28, donc l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loire, mais qui est aussi très actif dans l'association des usagers de l'hôpital de Chartres. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ignorent qu'il existe une association des usagers qui fait l'interface entre le corps médical et les gens hospitalisés ou leurs familles. Et ça, c'est très important. Ce sera pour la seconde partie de l'émission, cette émission qui est mise en onde aujourd'hui par Simon Martin. On va parler de l'UDAF 28, l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loire, qui est une grosse boutique qui regroupe toutes les assos familiales dans le département. C'est ça, Yvan, hein?
Oui, bonjour et merci d'abord de me recevoir. Oui, l'Union nationale des associations familiales d'Eure-et-Loire, je tiens à préciser qu'il y en a quand même une dans chaque département. Il y a environ 18 mouvements familiaux, d'où découlent 82 associations qui représentent environ 4550 familles dont s'occupe l'UDAF.
C'est colossal, 82 associations dans le...
Oui, ça commence à être... 82 associations, il faut bien faire la différence. Beaucoup d'associations appartiennent à une même fédération. C'est pour ça que, je vous ai cité qu'il y avait 18 mouvements de fédération.
Ouais. Voilà. Alors ces associations, quelles sont-elles? J'en connais au moins une, c'est Famille de France.
Bon, écoutez, je peux vous en citer quelques-unes, si vous voulez. Vous avez Famille Rurale, donc Famille de France, que vous venez de citer, dont je fais partie d'ailleurs, puisque c'était un de mes mandats. Vous avez la Confédération syndicale des familles, l'Association familiale catholique, l'Association des paralysés de France, les conjoints survivants, l'Autisme 28, Maison familiale rurale du Perche, Jumeaux et Plus, Association des parents d'enfants déficients auditifs, l'ADMR, qui s'occupe des personnes âgées, l'UNAFAM, les associations des familles de traumatisés crâniens, les ADPI, ce sont les papillons blancs, hein, les enfants, c'est familles d'adoption, Jonathan Pierre Vivante, qui vient d'adhérer d'ailleurs à notre fédération.
Vous avez reçu il n'y a pas très très longtemps ici.
Voilà. Et puis après, vous avez la médaille de la famille, ainsi de suite, les Maisons Soleil, toutes ces petites fédérations, associations qui dérivent un petit peu des fédérations.
On voit que ça couvre un certain nombre d'activités, très nombreux.
C'est nos activités au travers d'ailleurs de, non seulement des employés internes, mais je vous en parlais tout à l'heure, mais surtout au niveau des bénévoles qui sont très impliqués au niveau des conseils d'administration et toutes les représentations de ces associations auprès des pouvoirs publics et puis de nos partenaires pour pouvoir justement représenter nos familles.
Ouais. Alors pourquoi ces associations ont-elles décidé d'intégrer l'Union départementale? L'intérêt pour elles?
Justement pour avoir quelque part une place sur la commune et puis sur la ville. Donc c'est une représentation qui est un peu plus, qui est un peu plus performante, parce que quelque part, nos représentants et nos bénévoles, au travers de l'UDAF, peuvent représenter, ont un mandat, comme moi par exemple, puisque je suis représentant des usagers aux hôpitaux de Chartres. Ce mandat, on ne peut représenter, si vous voulez, au niveau des hôpitaux de Chartres, que si on a un mandat qui résulte d'une association qui fait partie de l'UDAF. Donc ces associations délivrent, notre association délivre des mandats pour nos représentants.
D'accord. C'est comme une marque de fabrique, on va dire, l'UDAF.
Ah, c'est pas une marque de fabrique, c'est plus que ça. Oui. On s'occupe des familles et puis on s'occupe des enfants et particulièrement des tutelles. Donc c'est quelque chose qui est d'intérêt public, hein, puisque les deux missions des UDAF, vous avez les deux premières missions, c'est une mission d'action sociale d'intérêt familial, je dis bien familial, qui confie à des salariés formés, des salariés internes à l'UDAF, hein, qui sont formés pour les assumer au quotidien, au profit des familles confiées à l'UDAF par les pouvoirs publics. Je précise, par les pouvoirs publics.
C'est-à-dire, oui, donc...
Par exemple, au niveau des tutelles, vous avez les tutelles pour les enfants et puis les tutelles pour les adultes. Donc, les pouvoirs publics délivrent des subventions ou des subsides pour pouvoir s'occuper de ces tutelles. Vous avez actuellement, je recherche le chiffre, vous avez ces deux services qui sont des tutelles pour les prestations familiales du service des enfants et pour la gestion de protection juridique, donc qui est le service des adultes. On a un peu plus de 1170 missions. C'est-à-dire qu'on s'occupe de à peu près 1170 personnes.
1170 personnes, voilà. D'accord.
Je parle des tutelles, hein. Ouais. Personnellement, juste pour les tutelles. Ce qui est quand même la plus grosse partie de notre travail à l'UDAF, ouais. Qui représente la plus grosse partie.
Quand on parle de tutelle, on parle de quoi ? De familles qui ont besoin d'être aidées, oui. Dans la vie quotidienne.
Voilà, qui ont besoin d'être accompagnées, l'activité, qui ont besoin d'être accompagnées au niveau de tout. Hein. Comment vous expliquez ça ? On donne les principales actions de l'UDAF, c'est par exemple de donner son avis au pouvoir public sur les intérêts d'ordre, sur les questions d'ordre familial, de représenter officiellement ses familles quand elles ont besoin d'être représentées, de gérer tous les services d'intérêts familiaux et enfin d'exercer devant les juridictions l'action civile pour défendre les intérêts des familles sans avoir à fournir un agrément ou une autorisation préalable, puisque ces UDAF ont été créés par ordonnance du 3 mars 1945 et la loi du 11 juillet 1975. Et donc, c'est une association d'utilité publique qui représente ces familles. Ouais. Donc, on a besoin de demander aucun agrément. On est là pour représenter, ouais. les familles.
Alors, quels sont vos principaux partenaires ?
Ah, des principaux partenaires. D'abord, c'est l'État. Hein, pour ces deux services que je viens de nommer, ce sont des subsides de l'État, ce sont l'État. Et derrière, après, vous avez donc toutes les représentations qu'ont nos délégués. Vous avez, je peux vous les citer, on l'a dans nos représentations au niveau de la CAF, au niveau de la MSA, au niveau de la CEPAM, au niveau du Centre communal d'action sociale, par exemple, qui s'occupe des ADIL, de la réinsertion des adultes, des commissions de surendettement qui sont très très importantes auprès de la Banque de France, par exemple, de la commission d'attribution du Fonds de solidarité, du logement. On a eu d'ailleurs une entrevue avec le directeur de Chartres Habitat vendredi dernier. On a débattu un petit peu de ce qu'on faisait et on a quelques points communs avec eux. Donc de l'énergie, de la santé, puisque j'ai cité les hôpitaux, de loisirs et culture, du loisir par exemple ou de la culture, comme lire et faire lire. On a des représentants qui vont dans les écoles pour faire la lecture aux enfants.
Donc spécifiquement, les problèmes dont vous occupez, il y a vraiment là encore une gamme très large de problèmes. Ça peut être le surendettement, ça, oui. peut être aider les familles à remplir...
Voilà. Alors l'intérêt de l'action sociale permet d'intervenir en économie sociale et budgétaire, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le microcrédit, le surendettement, l'accompagnement conventionnel. Alors pour les prestations familiales, qui sont les services des enfants, pour la gestion de la protection juridique, qui sont pour les services des adultes, et donc ce sont des tutelles. Et pour finir, les informations aux tuteurs familiaux. Alors, vous avez l'information, le conseil et le soutien technique. N'importe qui peut venir à l'UDAF, s'il a un problème, peut venir demander soit un renseignement, soit à être aidé à ce niveau-là.
Certaines familles font appel à vous.
Ouais. Vous avez certaines familles qui peuvent venir directement. Autrement, vous avez comme pour les tutelles qui sont désignées directement par les juges. Ouais. Voilà. Quand il y a un jugement, le juge désigne l'UDAF ou donne la mission à l'UDAF pour pouvoir s'occuper de ces personnes qui sont par eux-mêmes pas toujours très capables de pouvoir se gérer.
Ouais. Vous venez d'intégrer la présidence de l'UDAF. C'est un sacré boulot. Ouais. Quelle situation avez-vous trouvé ? Est-ce que vous avez été étonné par la situation, par la pauvreté en Eure-et-Loire ou par les difficultés rencontrées par les familles, ou c'est quelque chose que vous connaissiez déjà ?
Je le connaissais au travers de l'hôpital, au travers de mon action de l'hôpital. Hein. Bon. Mais au travers de l'action propre à elle-même en tant que présidente de l'UDAF, puisque ça fait que 2 mois que je suis président depuis fin septembre, puisque l'ancien président, M. Pasquet, d'ailleurs, qui a fait une très très bonne gestion de l'UDAF et qui a laissé des comptes et une situation très très saine, ça faisait 8 ans qu'il était là, il commençait à lasser. Donc il a voulu laisser sa place. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'année prochaine, c'est une année élective, puisque le tiers du conseil d'administration va être renouvelé par tiers. Donc il y aura une nouvelle élection, avec une nouvelle élection du conseil d'administration et une nouvelle élection de bureau. J'ai été, personnellement, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'ai été un petit peu surpris par la somme de travail ou la somme d'investissement qu'il y a en tant que personne. Mais c'est vrai qu'on a besoin, il y a beaucoup de familles qui sont nécessiteuses et qui ont besoin d'être aidées. Et ça, c'est très important. C'est donc pour nous l'action principale d'essayer d'avoir les subsides pour les rendre pérennes, ces subsides, qui c'est pas toujours facile, puisque, comme vous le savez, quand ce sont des subsides de l'État, par exemple, comme pour les tutelles, qui sont renouvelés tous les ans, c'est pas toujours facile, parce que chaque année, on sait pas trop où on va. Et donc, je tiens à préciser qu'il y a quand même 53 employés à l'UDAF, c'est quand même quelque chose, ça commence à être une petite PME, hein. Et pour essayer de pérenniser justement ces subventions et cet argent pour pouvoir faire vivre cette association, c'est pas toujours facile. Donc d'une année à l'autre, on sait pas trop où on va, quoi. Voilà. On sait que par notre sérieux, par notre travail, qu'on va avoir, que ça va être, que ces subsides vont être renouvelés, mais c'est pas toujours évident à gérer ce genre de
choses. Oui, l'État resserre les cordons de la bourse, hein, depuis quelques années. On sait bien qu'il y a de moins en moins d'argent.
À tous les niveaux.
À tous les niveaux.
Pas que l'État. La région, pareil.
Le département,
pareil. Le département, pareil.
Je suppose que le département, c'est aussi un de vos principaux.
Bien sûr. Et le Conseil général aussi, par la même occasion. Hein, la CAF et tout ça, qui nous donne des missions. Donc c'est vrai qu'il y a une, on est en pleine mutation actuellement, il y a un transfert de compétences et un transfert de fonds.
Les deux ne sont pas forcément à hauteur.
Non, ils ne sont pas toujours. Voilà, c'est pas trop compatible, mais c'est pas toujours facile à anticiper, justement, cette marche. Voilà.
Et donc, votre travail, vous, en tant que président, c'est quoi exactement ?
Ah ben, moi, en tant que président, c'est d'essayer de donner une ligne de conduite, justement, à l'UDAF. D'ailleurs, dès ma prise de président, j'ai demandé à notre éminent directeur, M. Montgillon, très compétent d'ailleurs, de prendre rendez-vous avec toutes les collectivités locales et tous les représentants de tous nos partenaires, afin qu'on se présente et qu'on présente tout le cahier des charges et toutes les démarches qu'on a à faire. J'estime, moi, on fait pas de voyeurisme, hein. C'est pas mon but, c'est pas mon genre non plus, mais c'est simplement pour aller présenter ce qu'on fait.
Oui.
Et je suis un petit peu surpris parce que certaines administrations sont un peu surpris de nous voir arriver. Oui. Et ils ne cernent pas toujours l'importance du travail qu'on fait derrière.
Oui, le savoir-faire sans le faire savoir, c'est pas suffisant.
C'est pas toujours évident d'aller. On voudrait pas qu'on ait l'impression d'aller pleurer au niveau, mais présenter notre job, je pense que c'est très très important. Vous voyez, par exemple, je tiens à vous dire que on a répondu, par exemple, il y a pas longtemps, à un appel d'offres de la CAF pour la mise en place d'un service de médiation familiale. Donc ils savent ce qu'on fait et ils sont venus nous demander si on était apte à gérer ce genre de service.
Ouais.
Évidemment, on leur a répondu oui. Ouais. Voilà. Maintenant, on est en attente de réponse. Ça, c'est sûr et évident. Donc, si la réponse est oui, ça permettra par la même occasion de développer un petit peu notre action et très certainement de créer peut-être un emploi supplémentaire à l'UDAF pour pouvoir s'occuper de cette mission qui est très importante.
Ouais. Affaire à suivre.
Et si vous voulez, si ça se fait, mais je pense que c'est en bonne voie de se faire, si vous le permettez, si vous le voulez, on pourra venir présenter avec le directeur véritablement cette mission et en quoi elle consiste.
Ouais. Yvan Kuntz, on écoute un peu de musique et on va parler de l'association des usagers de l'hôpital de Chartres, bien évidemment.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel, écho de ma commune, qui vous est présenté aujourd'hui par Christophe Jubien, Simon Martin à la régie, et mon invité n'est autre qu'Yvan Kuntz, qui a plein de casquettes, hein. Vous avez chaud à la tête. Hein.
Un petit peu, oui.
Dans la première partie de l'émission, on a parlé de l'UDAF, dont vous êtes le nouveau président, donc l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir. Là, on va parler de quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous tient toujours à cœur depuis 8 ans, que vous êtes représentant des usagers au sein de l'hôpital du Coudray, l'hôpital de Chartres, si on veut.
L'hôpital de Chartres, oui.
Alors là, moi, ça fait peu de temps que je sais qu'il y a comme ça des représentants d'usagers. On peut aller vous voir. Et si on a des choses à faire remonter, par exemple, aux médecins ou aux responsables de l'hôpital, eh bien on peut passer par vous, par les représentants de l'hôpital. Je ne connaissais pas cet échelon avant.
Oui, d'ailleurs, je vous remercie de me recevoir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'on fait, qui ne savent pas qu'on est là. J'ai l'habitude de dire, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'ai l'habitude de dire que les malades ou les personnes qui viennent à l'hôpital, ce ne sont pas des clients comme on les voit dans les grandes surfaces. Ce ne sont jamais les mêmes. Voilà, ça se renouvelle. Oui. Malheureusement, vous avez les gens qui viennent, qui tombent malades, et ainsi de suite. Donc, ils ne savent pas. Et c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui que vous me donniez la parole pour expliquer notre action. Donc, moi, ça fait 8 ans que je suis représentant des usagers aux hôpitaux de Chartres. Je fais partie d'ailleurs du conseil de surveillance avec deux autres représentants des usagers. J'ai un mandat officiel, c'est-à-dire notre association s'est portée à demander à la direction des hôpitaux de Chartres si on pouvait, je parle de l'UDAF, hein, oui. Si on pouvait être représentant des usagers, donc ils ont accepté, donc ça fait 8 ans depuis 2007, depuis que je suis à la retraite, que je suis représentant des usagers. Voilà.
Et c'est très officiel, hein, ça fait, il y a trois collèges, on va dire,
dans le conseil d'administration, exact, vous avez trois collèges. Le premier collège dont fait partie les représentants des communes, les maires des communes, hein, comme par exemple, puisque le député maire de Chartres, monsieur Gorge, est président du conseil de surveillance, et le maire du Coudray, sur lequel se trouve l'hôpital du Coudray, monsieur Soulet, et en est le vice-président. Donc, ce sont les cinq premiers sont le premier collège représentant des communes. Le deuxième collège, c'est représentant des hôpitaux, hein, puisque vous avez le président de la CME, la commission des médecins d'établissement, et puis des représentants des cadres de santé et des médecins. Et le troisième collège, dont on fait partie, puisque c'est la loi, qui demande à ce qu'il y ait trois représentants des usagers dans ce conseil de surveillance. Voilà. Et donc je fais partie.
Alors, vous disposez au sein de l'hôpital d'un local avec des permanences, on peut venir vous voir.
Voilà. Donc, ce local, il était ouvert avant que j'arrive, puisque je suis rentré en 2007, et l'ancien directeur, M. Calmon, nous a autorisé à réouvrir l'espace usager qui se trouve dans les hôpitaux de Sarthe. D'ailleurs, nous avons une permanence qui se tient tous les jeudis de 14h à 17h. Et tous les jeudis, dans ce bureau, dans l'entrée, vous pouvez venir, n'importe qui peut venir nous trouver. Nous ne sommes pas là pour prendre la place des médecins. Attention, on n'est pas là pour, on n'a pas aucune formation médicale ni scientifique. On est là simplement pour accompagner les gens qui ont besoin d'être accompagnés pour quoi que ce soit d'ailleurs, hein, pour des papiers, pour les diriger dans l'hôpital, pour leur expliquer comment ça marche, voilà, pour des plaintes, pour des lettres de félicitations parce que tout se passe bien à l'hôpital.
Donc, faut le dire de temps en temps quand même.
Il faut le dire, on en reçoit. On reçoit des plaintes évidemment, hein, ça c'est sûr et certain. Alors, je vais vous dire quelque chose, je voudrais pas...
Allez-y.
Je voudrais pas vexer les gens qui écoutent, peut-être, parce que peut-être que certaines personnes se sont plaintes, mais par exemple, je vais vous citer deux ou trois chiffres, hein. En 2012, il y a eu 57 plaintes dans l'année, en 2013, 68, en 2014, 77.
C'est beaucoup, c'est énorme.
Alors, vous croyez que c'est beaucoup, mais quand vous reprenez ces chiffres, je minimise pas les plaintes, hein, parce qu'on les traite, et nous, particulièrement les usagers, au niveau de la commission des usagers qui se tient une fois par trimestre, on traite toutes ces plaintes, et on va voir les directeurs et les médecins, plutôt la direction mène des enquêtes justement pour corriger ces travers. Voilà. Mais par exemple, je vais vous citer, hein, l'année dernière, il y a eu 182 500 journées d'hospitalisation. Il y a eu 2690 naissances. En activité externe, par exemple aux urgences, vous avez eu 42 000 passages. Alors, aux activités externes, vous avez eu un peu plus de 102 000 consultations publiques et 9 000 consultation privée, c'est sûr que quand vous ramenez le ratio de ces 77 plaintes par rapport à tout ce qui se passe à l'hôpital, le rapport est très petit.
Très petit, oui.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les traite pas. Parce que pour nous, c'est très important. Il est évident qu'on préférait qu'il n'y en ait aucune de plainte, que tout se passe bien. Malheureusement, il y a des fois des dysfonctionnements, il y a des fois des débordements, il y a des fois des personnes, je ne sais pas, moi, qui ne sont pas très psychologues, si je veux pas, ou des médecins, des gens qui attendent trop longtemps aux urgences, ou qui, ouais, ils semblent qu'ils ne sont pas soignés. C'est sûr qu'on est là pour aider et pour les traiter, justement.
Ouais. Quels sont les griefs qui reviennent le plus souvent, généralement,
c'est... Peut-être le grief qui revient le plus souvent, c'est peut-être la longue attente qu'il y a aux urgences. Oui. Quoique... Je dois vous dire que depuis qu'il y a le docteur Revu qui est arrivé à l'hôpital de Chartres et qui a restructuré ce service, il a baissé considérablement le temps d'attente. Et en plus, il a instauré un système à 5 degrés de gravité, c'est-à-dire que quand les malades arrivent, suivant le degré de gravité, ils sont pris en charge plus ou moins vite ou dirigés tout de suite vers des spécialités pour pouvoir les traiter. En plus, je précise, parce que les urgences, vous le savez, des fois, les gens, avec la pénurie de médecins qu'il y a, et particulièrement pendant les week-ends, tout le monde, évidemment, se retourne vers les urgences.
Oui, les médecins disent que parfois, une petite coupure au petit doigt, voilà, tant qu'on arrive aux urgences.
Voilà, et il faut que tout le monde sache que, par exemple, il y a une maison médicale qui a une permanence tous les soirs à l'hôpital à partir de 20h. Donc, n'importe qui peut aller visiter.
Voilà, c'est assuré par un médecin généraliste.
C'est assuré à tour de rôle. Voilà. C'est un musée qui ont des permanences et c'est assuré par un médecin généraliste.
Ouais. Vous avez un rôle de conseiller comme ça, de diriger les gens vers un bon service.
Conseiller, c'est un bien grand mot. Mais on est là pour les aider. On est là pour traiter ce qu'on doit traiter, soit les besoins, soit les plaintes. On est là pour discuter avec la direction de l'hôpital et particulièrement avec le service des usagers et de la communication qui est dirigé par le directeur adjoint, Monsieur Letillier, très compétent d'ailleurs, je dis, avec qui on a des rapports très très cordiaux.
Et oui, ils ne vous voient pas comme des enquiquineurs parfois.
Absolument pas. Je tiens à préciser que depuis 2007, moi ça fait le troisième directeur qui est arrivé. Il y a eu d'abord M. Calmont, après il y a eu M. Bernard, et maintenant plus particulièrement le nouveau directeur, c'est M. Pignard. Ils nous ont ouvert carrément, ils nous aident, ils nous investissent dans notre action ici, à l'hôpital de Chartres. Donc c'est facile pour nous d'aller discuter, c'est facile de taper dans un bureau, c'est facile même d'aller trouver des médecins. Ils ont pris tellement l'habitude de nous rencontrer, les médecins, que il y a même des chefs de poule qui n'hésitent pas à venir à nous faire visiter leur service pour savoir comment ça se passe. Et pour nous, en tant que représentants des usagers, c'est extrêmement important de savoir ce qui se passe derrière les murs. Vous savez, la plupart du temps, les gens ne voient que les chambres et que les murs. On sait pas que c'est une fédération d'État, parce que vous avez les urgences, vous avez la neurologie, vous avez les travaux, vous avez la lingerie, vous avez la restauration.
C'est une petite ville.
C'est même une grande ville.
C'est même une grande ville.
N'oubliez pas, en permanence, vous avez entre 2300 et 2500 personnes qui travaillent sur les trois sites, parce qu'il n'y a pas que celui du Coudray, vous avez celui de l'Hôtel-Dieu de Chartres, et vous avez aussi celui qui se trouve au Babour, au Val-de-l'Eure, là-bas, donc vous avez l'EHPAD qui se trouve aussi au Val-de-l'Eure.
Finalement, voilà. Vous êtes utile aux usagers, mais vous êtes aussi utile aux médecins qui n'ont pas forcément le temps, ni le loisir, ni le recul nécessaire pour se rendre compte des besoins.
C'est ce qu'ils nous disent, parce qu'au travers de toutes les commissions dans lesquelles ils nous ont impliqués, ils nous disent c'est important pour nous parce que vous avez une vue extérieure qu'on n'a pas. Et souvent, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas ce qui se passe extérieur. Si vous permettez, voilà, ils nous ont impliqués, je vais vous dire, au niveau de la participation de la CRUC, donc des usagers. Vous avez le conseil de surveillance, vous avez le comité stratégique de la qualité, puisqu'on a eu la certification fin octobre, donc ils nous ont impliqués justement dans cette certification. La participation à l'ISCLIN, c'est-à-dire à la lutte contre les maladies nosocomiales. Vous avez la participation au comité d'éthique, aux commissions d'achat, aux commissions d'appel d'offres, aux commissions paritaires, à la vie sociale qui concerne l'EHPAD plus particulièrement, hein. Donc la participation aux commissions de réforme ou à la commission libérale et au développement durable. Vous voyez que...
Rien de ce qui concerne la vie hospitalière ne vous est étranger, quoi. Finalement, vous êtes associé.
Ça n'a pas été facile. C'est un petit peu... Puisqu'on parlait de l'UDAF tout à l'heure, puisque je suis entré en découverte de l'UDAF, il m'a fallu quand même un certain temps pour pouvoir découvrir ce qui se passe réellement et comment nager dans ces méandres et dans ces arcanes de leur organisation. Je vous avoue, franchement, c'est pas facile.
On arrive à la fin de l'émission, Yvan. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles?
Ah, mais justement, parce que tout à l'heure, oui, on cherche des bénévoles. Pas qu'au niveau des bénévoles de l'hôpital. Je me permets de dire aussi qu'au niveau de l'UDAF, nous cherchons des bénévoles, parce que pour nous, c'est extrêmement important. Et la représentation est très importante, parce que les gens ne savent pas où nous chercher. Donc, on est là pour ça. Et plus on est nombreux, plus on pourra rendre service.
Une dernière chose, un numéro de téléphone peut-être pour avoir les horaires des permanences pour les usagers de l'hôpital.
Pour les usagers, il faut téléphoner au service des usagers et puis de la communication. C'est le 02 37 30 30 et 14. Voilà, les secrétaires du service qui nous mettront en contact ou qui vous donneront directement des renseignements.
Un grand merci à vous.
Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu aujourd'hui.
Et merci à Simon La Technique. Merci beaucoup et restez-nous fidèles. Les programmes de votre radio préférée se poursuivent, bien sûr. Looking stupid.